de santé 88.4.
Sur Enjeux de santé. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour vous Bernard Gaillard, un ancien enseignant-chercheur en psychologie de Rennes 2, qui nous parle un petit peu de la santé environnementale en relation donc avec le colloque Santé et Territoire qui était le 22 et le 23 novembre sur Rennes 2. Voilà, je vous laisse l'écouter.
Donc, bonjour Bernard Gaillard, donc je suis enseignant-chercheur en retraite, hein, prof de psychologie en retraite de Rennes 2, ayant travaillé sur des questions criminologiques et psychocriminologiques et actuellement donc j'interviens toujours soit en expertise auprès des tribunaux, soit aussi dans les interventions auprès des jeunes adolescents, délinquants, ou des moins jeunes délinquants. Par ailleurs, j'ai pu présider des associations médico-éducatives et actuellement je suis aussi membre de la CRSA, la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, et je suis également dans le champ de la santé, président de l'AMGEN départementale d'Ille-et-Vilaine et membre de l'Union départementale des mutuelles d'Ille-et-Vilaine. Donc voilà, j'ai pas mal de palettes d'activités sociales au sens large.
D'accord, et en ce moment, il me semble que vous faites aussi partie d'un colloque sur Rennes 2, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est quoi le sujet principal?
Alors effectivement, donc, c'est un colloque organisé à la fois par l'Université de Rennes 2, mais aussi par la Maison des sciences humaines, des sciences de l'homme, pardon, de Rennes. Et donc sur un thème très d'actualité qui est santé et territoire, territoire au pluriel. Donc les intervenants sont entre autres des sociologues, Marcel Calvez de Rennes 2 et son équipe. Et l'idée est d'interroger à la fois théoriquement mais aussi dans les pratiques le lien entre les questions de santé et les organisations territoriales ou l'occupation territoriale des personnes. C'est une thématique qui est très actuelle et notamment aussi portée par le gouvernement actuel et par la ministre et qui essaie d'implanter des organisations nouvelles dans les territoires.
D'accord. Et il me semble aussi que donc, dans ce colloque, vous parlez un petit peu de la qualité de vie et donc de l'émergence des questions de santé environnementale. Alors c'est un peu flou pour nous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer voilà, qu'est-ce que c'est que la santé environnementale ?
Alors c'est une idée qui n'est pas forcément nouvelle, hein, qui est aussi issue des conceptions hygiénistes éventuellement du 19e siècle ou du début du 20e. C'est l'idée qu'il faut sans doute avoir une approche globale de la santé, une approche globale de la personne en relation avec son espace et son environnement. Et donc, c'est l'idée que dans les facteurs qui contribuent à la bonne santé ou à la dégradation de la santé chez une personne, il y a des facteurs qui concernent la personne elle-même, voire les abus de la personne, tels que la prise exagérée de toxiques. Mais il y a aussi, d'une part, les relations sociales engagées avec son environnement et les rapports de la personne avec l'environnement physique et géographique, urbain. Donc ce sont des facteurs environnementaux qui, en partie, participent pas la dégradation de la santé. Alors, comme facteur, comme exemple, il y a les rythmes de vie. La ville de Rennes et son ancien maire Edmond Hervé avaient un bureau du temps, par exemple, à la mairie de Rennes. Et l'idée, c'est que l'environnement tel que l'on construit au travers de son calendrier, de ses rythmes quotidiens, contribuent au stress et au mal-être de la personne et peuvent produire là aussi des dégradations de santé. Mais il y a en Bretagne le radon, les gaz qui sont produits par le granit, par exemple. Hein. Il y a les radiations, l'ionisation de l'air. Donc c'est un plan de recherche sans doute nouvelle. Pour essayer d'étudier quel est l'impact effectif, réel, de ces éléments d'environnement physique, naturel, mais aussi de l'environnement humain sur l'évolution de la santé de la personne.
Et du coup, est-ce que vous diriez qu'on est victime en fait, de notre environnement ?
Alors victime, c'est un terme de criminologie, ça presque. Hein. Je dirais que on est à la fois victime et auteur de son environnement. On produit nous-mêmes notre environnement. On est acteur de notre environnement. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure les rythmes de vie, c'est un choix de la personne, un choix effectivement qui est quand même déterminé par d'autres éléments, ne serait-ce qu'économiques par exemple, mais d'habiter dans le centre de Rennes ou d'habiter à 50 km de Rennes. Et donc la vie au quotidien ne va pas être la même. L'environnement physique, on contribue ou non à la dégradation également de son environnement physique. C'est-à-dire que l'évolution technologique de notre environnement est bien construite par l'humain. Et donc l'environnement n'est pas uniquement naturel. L'environnement aujourd'hui est construit depuis des siècles et des siècles par l'humain, hein. La voiture, la radio, les ondes, les barrages électriques, les centrales nucléaires, tout ça c'est bien construit par l'humain. Donc nous sommes co-responsables, on n'est pas simplement victime, on est co-responsable de l'évolution de l'environnement. Et ça c'est une thématique effectivement nouvelle qui émerge en lien avec peut-être la pensée écologique. Entre autres, c'est l'idée qu'il faut être vigilant sur la manière dont on construit, dont on aménage, dont on fait évoluer l'environnement physique. Ça laisse toujours des traces quand on pense à la déforestation dans certaines zones du monde, quand on pense à la pollution parce que on veut chercher entre guillemets des trésors, que ce soit l'or, hein, quand on utilisait le mercure, par exemple, dans les rivières, ou le débat d'aujourd'hui sur les gaz de schiste, par exemple. Hein, la manière dont on va essayer de produire des énergies nouvelles a des influences évidemment sur notre santé. Mais donc les recherches vont porter sur effectivement la réalité et l'importance de ces facteurs.
D'accord. Et pour certains métiers, c'est vrai que ces facteurs ils sont plus importants et du coup ils sont un peu des métiers à risque. Et c'est un peu dommage. J'ai vu aussi il y avait une question qui était sur la prise en charge des risques pour certains métiers. C'est encore quelque chose qui est assez mal fait au final.
Donc vous parlez des risques professionnels. Alors c'est une question qui est de plus en plus travaillée aujourd'hui. Et c'est vrai que la personne adulte passe quand même beaucoup de temps de sa vie dans les lieux professionnels, voire parfois importe sa vie professionnelle dans sa vie familiale. Alors les risques professionnels sont de différents ordres. Ils peuvent être de l'ordre très physiologique. Ça s'appelle par exemple les troubles musculo-squelettiques. Donc avec des impacts sur le corps, des actes professionnels répétés par exemple. Bon. Et ça, cela dépend de différentes professions. Hein. D'autres types de risques professionnels, c'est par exemple l'amiante. Hein, donc là, qui peut provoquer la poussière d'amiante des risques de maladies graves. Mais il y a aussi des risques qui sont peut-être plus difficiles à cerner, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Dont les entreprises maintenant font extrêmement vigilance parce qu'ils ont une responsabilité, une obligation de résultat. C'est-à-dire que toutes les entreprises, y compris les administrations de l'État, doivent tout faire pour que leurs salariés ne se sentent pas victimes de l'organisation elle-même du travail, ce qui est pas simple. Et donc ça donne lieu, cette organisation parfois du travail, à du stress, à du burn-out. Et on voit que dans certaines entreprises, il y a des suicides qui sont en partie provoqués par les conditions de vie au travail. Bon. Et donc il y a des dispositifs maintenant qui sont obligatoires dans les entreprises, c'est notamment le CHSCT, le Comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, qui doit veiller à étudier les moyens d'améliorer les conditions de travail, et ceci avec la médecine du travail. Ceci dit, il faut sans doute augmenter la présence et le nombre de médecins du travail, y compris dans les administrations de l'État, puisque quand on parle d'éducation nationale, par exemple, en Bretagne, il me semble qu'il n'y ait que 2 médecins consacrés à la prévention des risques du travail pour l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale dans l'académie de Rennes. Donc ce qui semble très peu et ce qui semble tout de même un leurre de discours public. Donc là, il y a certainement une grosse amélioration à faire. Voilà.
Pour vous, être étudiant, du coup, ça peut être risqué ?
Alors, une vie à risque, d'une part, pour la formation elle-même. Et c'était sans doute le sens des grandes manifestations qu'il y a eu, entre autres sur le campus de Rennes, il y a quelques années. C'est-à-dire, quel est le sens de la formation et à quoi sert une formation à l'université pour les étudiants? Sinon, pour s'insérer dans la vie active et professionnelle à venir. Ça, c'est un sacré risque pour les étudiants, puisque compte tenu de la situation sociale et économique de la France aujourd'hui, on sait bien que la population jeune est celle qui a le plus fort taux de chômage, par exemple. Donc le risque, c'est est-ce que je peux m'investir? Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour m'investir dans un parcours de formation? Le risque, c'est que les étudiants, ils se désinvestissent, puisque ils ne voient pas tellement le sens de la formation. Et donc, associé à ce désinvestissement, pour d'autres raisons, et notamment des raisons de déplacement, d'éloignement de la vie familiale, d'éloignement de ces lieux antérieurs d'investissement affectif, de ces groupes de copains et de copines, de ces actions aussi sociales, de ces clubs sportifs ou culturels, etc. Eh bien, l'étudiant, quand il arrive notamment la première année, il est seul un peu sur le campus. Et le risque, c'est de rester seul. Et pour ne pas rester seul, c'est de prendre l'illusion par la consommation d'alcool ou de drogue. Et donc, de faire comme s'il était intégré dans la vie sociale à Rennes, sur le campus, et intégré dans un cycle de formation, alors que ce n'est là aussi que du leurre. Et donc, il y a à ce moment-là des risques de santé. Et quand on sait que le taux de renoncement aux soins chez les étudiants est quand même de l'ordre de plus de 30%, énorme, pour plein de raisons, notamment des raisons financières ou des raisons de couverture mutuelle étudiante, eh bien, il y a des étudiants qui vont basculer dans des positions de rupture sociale, rupture affective, rupture identitaire. Et donc là, sans doute qu'il faudrait accompagner beaucoup plus les étudiants avec des dispositifs. Mais là aussi, c'est la santé, c'est la médecine préventive des étudiants qui devrait être beaucoup plus soutenue. Aujourd'hui, c'est aussi une question de moyens. Mais c'est un choix social, un choix politique que l'on devrait faire si on accepte de penser qu'il y a à Rennes 50 ou 55 000 étudiants. Eh bien, il faut se donner les moyens d'accompagner ces étudiants dans un meilleur parcours de formation, ce que font le plus possible les enseignants et les équipes pédagogiques, mais aussi accompagner socialement, culturellement et dans la santé les étudiants.
Eh bien, on va faire une petite pause musicale et on retrouve tout de suite Monsieur Gaillard pour nous parler plus précisément du mal-être des jeunes au campus ou même voilà, leur relation à leur environnement.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Et donc, on reprend avec Bernard Gaillard. Je vous laisse écouter. Vous parliez donc de la prise d'alcool ou de drogue. Vous pensez quoi, vous, de l'alcoolisation en ce moment assez importante des jeunes en Bretagne ?
Oui, l'alcoolisation actuelle, alors elle est aussi ancienne. Hein. Bien évidemment, les adolescents, mais aussi parfois les adultes, hein, ont des consommations par moment très élevées d'alcool, hein, notamment les week-ends auparavant, hein. Maintenant c'est peut-être en cours de semaine. Le sens de cette alcoolisation, il y a d'abord un sens social, c'est aussi rentrer dans la norme, dans une norme. Il y a bien sûr deux ou trois normes, c'est-à-dire être un grand consommateur d'alcool dans certains moments festifs, ou certains vont refuser toute consommation d'alcool, c'est une autre norme. Le risque de cette consommation d'alcool, un peu comme les drogues dites douces, c'est de basculer sur des prises réitérées constantes d'alcool. Donc, c'est-à-dire, c'est devenir un alcoolique ou devenir un drogué. Donc, tous ceux qui prennent de l'alcool ne deviennent pas des alcooliques. Et donc c'est quand même rassurant de penser ça. Alors il y a des actions de prévention sur les excès. La ville de Rennes, notamment aussi avec la LMDE, les mutuelles étudiantes, ont des protocoles de prévention. Bon. Sans doute qu'il faut accompagner les étudiants de manière raisonnable, et ce n'est pas la morale qui va les faire changer de pratique, bien au contraire. Hein. Toutes les actions de prévention qui portaient sur la morale ont montré leurs limites, voire leurs contre-indications. Donc il faut avoir une approche globale et veiller à ce que ces pratiques d'alcoolisation ou de prise de drogue ne deviennent pas un comportement de malade, sans risquer d'être aussi un comportement de délinquant, puisque ça, c'est une autre norme, les normes juridiques.
Aussi, j'aimerais revenir sur la qualité de vie, en fait. Vous la trouvez comment aujourd'hui pour un étudiant ?
Alors, la qualité de vie pour les étudiants aujourd'hui, on peut avoir une approche pessimiste, une approche optimiste. Je pense que la qualité de vie repose sur différents facteurs, type l'aménagement des espaces, type l'aménagement des horaires, des emplois du temps, type les exigences que on attribue à la place de l'étudiant donc sur les campus. Si on regarde l'aménagement des espaces, l'architecture, et si je prends Rennes 2 que je connais plus particulièrement, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts, j'allais dire de confort de vie des étudiants. On peut toujours demander plus, mais il y a eu de très nombreuses améliorations. Et qui dit amélioration d'ailleurs de la vie des étudiants dit aussi amélioration de la vie des enseignants. Je pensais notamment au bâtiment S qui vient d'être construit, qui est tout nouveau, qui est tout beau. Et donc effectivement, c'est mieux pour les étudiants, c'est mieux pour le personnel administratif et c'est quand même mieux pour les enseignants. Et puis le bâtiment des rêves qui est un bâtiment fléché pour les étudiants et conçu pour cela. Bon. Donc c'est une nouveauté tout de même. Mise en place depuis une dizaine d'années. Si on regarde l'organisation des cours, alors là, je serais plus partagé parce que il faut bien avouer que dans certaines disciplines, il y a peu d'heures de cours dans les premières années. Ce qui laisse beaucoup, notamment en sciences humaines, en sciences sociales, sur le campus de Rennes 2 en général, je pense, contrairement à d'autres sur Rennes 1, ce qui laisse les étudiants un peu dans de grands temps de liberté dont ils peuvent ne pas savoir ce que faire parce qu'ils n'ont pas éduqué ils n'ont pas été éduqués comme tels. Et sans doute qu'il faudrait qu'au lycée, voire au collège, on prépare les jeunes à prendre des responsabilités associatives, sociales, bien sûr, mais à prendre des initiatives dans la liberté des temps qui leur restent. Bien sûr, hein, les cours, l'organisation des cours n'est pas très coopérative. Parfois aussi, l'organisation de la semaine est un peu éclatée, ce qui fait que les étudiants ils sont obligés d'être présents sur les 5 jours, mais 1 heure par jour ou 2 heures par jour, ce qui n'est pas simple à organiser, et notamment quand l'étudiant habite loin du campus. Donc là, il y a sans doute encore beaucoup d'efforts à faire sur l'organisation du temps de l'étudiant et sans doute les accompagner dans cette organisation-là, parce que là aussi, c'est un risque. Et le risque, effectivement, c'est que il oublie qu'il est l'étudiant oublie qu'il est à l'université pour apprendre, pour se cultiver, et qu'il passe une partie de son temps ailleurs et dans des relations sociales, mais qui sont pas suffisantes dans sa formation à lui. Voilà ce que je pourrais dire. Donc je suis plutôt optimiste sur l'organisation, sur la qualité de vie, mais il reste beaucoup à faire et je suis plus inquiet sur quand même la prise en charge du côté de la santé de l'étudiant. Ça, c'est quelque chose qui a été oublié. J'allais dire aussi la prise en charge sur les activités sociales et sportives des étudiants. Finalement, je suis persuadé que les activités sportives, les activités physiques sont un élément du bien-être de tout un chacun. Il y a bien sûr ici à Rennes 2 le jeudi après-midi qui est consacré ordinairement au sport, aux activités sportives et culturelles. Et il faudrait véritablement, d'une part, que les enseignants ne fassent pas cours à ce moment-là. C'est prévu. On voit dans les faits qu'il y a un certain nombre de cours qui se font. Et puis que, alors bien sûr, il y a le SIM, il y a le, pardon, oui, c'est ça, le service, il y a un service spécifique pour l'organisation des activités sportives et qui fait, à la fois sur N1 et sur N2, qui fait de l'excellent travail. Mais on devrait aussi mobiliser encore plus et inciter encore plus les étudiants à pratiquer ces activités sportives et pas uniquement le jeudi après-midi. Donc ça, c'est un enjeu très fort pour améliorer la qualité de vie.
Aussi, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, mais dernièrement, donc, pour un peu aussi désengorger les transports, il y a eu une modification des horaires de cours. Par exemple, les licences 1 et les licences 2 en fait, commencent à 10h30, par exemple, alors que les L3 et les masters commencent maintenant à 10h45 pour éviter l'afflux, notamment dans le métro. Mais voilà, pour essayer aussi d'aménager un peu mieux justement les horaires. Vous trouvez ça bien, vous ?
Alors ça rentre dans l'aménagement du temps, et notamment la réflexion qu'Edmond Hervé avait fait il y a quelques années sur cet aménagement du temps. Alors là également, il ne faut pas être dupe, c'est aussi pour réguler les flux, à la fois sur le campus et effectivement dans les moyens de transport. Je pense qu'il faut trouver des plages de temps commun où les étudiants, l'ensemble des étudiants peuvent se retrouver. Si on découpe trop et de manière décalée les horaires des étudiants entre L1, L3, master, ils ne vont plus se retrouver trop ensemble. Au-delà de la gestion des flux, il faut veiller à ce que les étudiants de différentes années puissent se retrouver ensemble, puissent organiser des activités ensemble, puissent échanger ensemble. Moi, je crois beaucoup au lien entre les étudiants de L1, de L3, de L2, de master, etc. Il y a un enrichissement mutuel. Et là, si on segmente trop le temps, l'université, ce n'est pas un simple distributeur de cours. Ça doit être un lieu de vie et un lieu de rencontre. L'expérience que j'en ai, c'est y compris d'ailleurs pour les enseignants, pas suffisamment de temps commun, de temps libre pour pouvoir construire du projet.
Moi, j'y vais de mon expérience, mais aussi on a... Enfin, parce que moi, donc, je suis en L3 Et du coup, on commence à 10h45 et on arrive en cours. Et finalement, le temps que le professeur s'installe, ça, on commence le cours à 11h. Et du coup, c'est un petit peu ridicule parce que ça nous mange du coup la moitié d'une heure et on ne peut pas avoir de rendez-vous ou autre avant. C'est un petit peu du coup mal organisé.
Alors ça, c'est une question difficile hein, parce que c'est aussi la manière dont mes collègues enseignants gèrent leur temps de cours. Hein. J'ai essayé dans ma pratique, alors d'une part par respect pour les étudiants, mais aussi par respect d'engagement civique, je me dis, si le cours commence à 10h45, eh bien je commence mon cours à 10h46. Voilà. Sauf aléas, évidemment, mais ça doit être exceptionnel. Les temps de cours sont quand même assez limités, donc il faut que ce soit des cours pleins. En licence, il y a trop peu d'interpellations entre étudiants et enseignants. C'est-à-dire de rendre l'étudiant aussi acteur dans une dynamique de formation, acteur de sa formation, acteur des échanges entre les enseignants. Il me semble que personne n'a à avoir peur dans cette affaire. Bon.
J'aimerais revenir donc sur le mal-être des étudiants. Vous savez pas s'il n'y a jamais eu de suicide ou autre sur les campus?
À ma connaissance, non. Sur le campus de Rennes 2, il y a eu des menaces ou des tentatives, mais il n'y a pas eu de suicide réalisé. Ne pas oublier aussi les tentatives ou les menaces ou les réalisées par les personnels. Hein. Le HESP à côté, l'École de la Santé publique, il y en a eu un il y a quelques années. Hein. Donc c'est toujours dramatique. Hein. Le mal-être des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut venir de différents facteurs, différentes origines, des origines plutôt personnelles, plutôt historiques. Et puis une origine dans le cadre de vie même à l'université ou le cadre de vie même. Donc il faut être très vigilant. Il y a des cellules d'écoute psychologique sur le campus, ça existe, qui sont un peu utilisées. Tous les étudiants ne le savent peut-être pas, hein. C'est gratuit. Hein. Donc il faut pas hésiter à utiliser ça. Et je pense que tout un chacun, les étudiants, ont certainement besoin, à certains moments, d'avoir des entretiens, d'avoir une écoute par des professionnels tenus par une déontologie et le secret. Et ce n'est pas parce que nous allons nous entretenir une fois, deux fois, ou plus, éventuellement, auprès d'un psychologue, auprès d'un médecin de prévention, que l'on est dans la pathologie. C'est ce qu'on appelle le mal-être, et ne serait-ce qu'une simple, j'allais dire simple, c'est sans doute exagéré, une simple rupture amoureuse peut provoquer des moments de déstabilisation et nécessite de pouvoir parler dessus. C'est pas parce qu'on a une rupture amoureuse, une rupture affective, que l'on est du côté de la patho ou de la psychopatho.
Et vous, dans votre expérience donc d'enseignant, vous avez déjà eu des étudiants qui sont venus vers vous parce que voilà, pour différents problèmes?
Oui, certainement. Donc je passais beaucoup de temps sur le campus. Et donc les étudiants, je pense, certains venaient sans doute facilement auprès de moi. Ceci dit, ne pas non plus mélanger les fonctions. En tant qu'enseignant-chercheur, j'étais là pour enseigner, pour chercher. Et non dans une position de psychologue. Même si c'est difficile de faire la séparation entre les différentes fonctions dans une seule personne, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de confusion. Et donc, quand il m'apparaissait qu'une personne était en difficulté de formation, là, je pouvais tout faire pour essayer de la soutenir dans sa formation, quand c'est dans la démarche de formation, quand c'est une fragilité psychologique, voire une pathologie, et bien là, il s'agit de leur conseiller de prendre rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue dans un service. Donc je crois qu'il est très important, y compris pour l'ensemble des enseignants, l'ensemble des formateurs, y compris dans les lycées, dans les collèges. Bien sûr, il faut écouter les étudiants ou les lycéens, mais l'enseignant et le chercheur n'est pas un thérapeute. Ne pas confondre les deux positions. Ce ne serait pas lui rendre service. Hein.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on aurait tout dit un petit peu sur la santé et l'environnement, mais aussi sur donc divers thèmes. Merci beaucoup.
Merci, hein, l'invitation.
Eh bien voilà, En jeu de santé, c'est déjà fini. J'espère que vous avez tout écouté. Et pour ceux qui n'auraient pas tout entendu ou autre, vous avez le podcast sur radiocampusrennes.fr. À plus.